voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à la chanteuse Juliette Gréco, récemment disparue. Nous l'écoutons au micro d'Hélène Azéra en 2001. Ce soir, la chanteuse aux pieds nus.
C'est Anne-Marie Casalis qui vous présente à Sartre.
Elle me présente à Sartre, que je voyais déjà depuis des années assis sur une banquette en train de gratter du papier aux fleurs.
C'est-à-dire qu'aucun n'était étranger à l'autre, chacun avait repéré l'autre.
Oui. Oui. Mais Sartre disait, qu'est-ce que c'est que cette Gréco ? Mais c'est qui Gréco ? Qu'est-ce qu'elle fait, cette Gréco ? Ça l'intriguait, ce qui fait qu'il a demandé à Anne-Marie qui j'étais. Un jour, nous étions au Bal Nègre avec Merleau-Ponty, avec lequel je sortais énormément.
Merleau-Ponty m'aimait beaucoup. Donc vous avez connu Merleau-Ponty avant Sartre ?
Avant tout le monde, oui.
C'est Merleau-Ponty qui aurait pu vous présenter Sartre, puisqu'ils travaillaient ensemble.
Non, pas du tout. Il n'avait pas du tout envie de me présenter à Sartre, je crois.
Comment vous l'avez connu, Merleau-Ponty ?
Au bar du Pont-Royal. Au bar du Pont-Royal, il est venu, j'étais sur un tabouret, comme une femme de ma vie, et au bar, en train d'avaler je ne sais pas trop quoi, et sans doute, je ne buvais pas d'alcool, donc je ne sais pas ce que je buvais. Et il arrive et il me dit... Bonjour Gréco, je dis bonjour monsieur. Maurice Merleau-Ponty. Ah, bonjour monsieur.
Vous saviez déjà qui c'était ?
Oui. Oui. Et puis il commence à me parler. Hein. Puis il me dit là, vous habitez où, etc. Est-ce que je peux vous téléphoner ? Bien sûr, avec plaisir. Et puis je me dis voilà un mec auquel je vais poser des questions et qui va me répondre. Et je l'ai vu comme ça. Lui l'a vu autrement. Mais moi, je l'ai vu comme ça. J'ai vu enfin des réponses compréhensibles à mes questions. Et là, j'ai fait mes universités.
Quelles questions vous lui posez ?
Qu'est-ce que ça veut dire, l'existentialisme est un humanisme, parce que je suis quand même sortie de l'école très tôt. Très tôt, très vite.
C'était comme un cours de rattrapage.
Tout à fait. Avec un homme exquis. En plus, il m'a invité à dîner, on allait danser à la Romerie Martiniquaise, on allait danser au Bal Nègre, on allait danser. On était contents comme tous les deux, on s'amusait énormément. Il m'a fait rencontrer Leibovitz, qui m'expliquait ce que c'était qu'une certaine forme de musique, un peu compliquée pour moi, qui était la musique atonale. Donc, il m'a amené au concert, j'étais toute seule assise. Leibovitz, il m'a appelé, viens au concert. Je dis, bon, oui, avec plaisir. Alors, il jouait. Donc, j'étais au premier rang. Avec mon physique invraisemblable, mes vêtements approximatifs, j'étais là sur ma chaise et j'écoutais. Puis je fermais les yeux. J'ai vu que tu fermais les yeux pendant que je jouais. Qu'est-ce que tu faisais ? Je voyais des images. Mais qu'est-ce que tu as vu ? Et je lui racontais ce que je voyais. Et ça l'intéressait. Apparemment, ça l'intéressait. Ça l'amusait énormément. Et j'ai appris comme ça des quantités de choses. J'ai accédé à des choses auxquelles je n'aurais jamais pu accéder si je n'avais pas eu en face de moi des hommes et des femmes qui répondaient à mes questions.
Merleau-Ponty, à l'époque, était directeur des temps modernes.
Oui.
Donc il avait une position, on peut dire, clé dans l'intelligentsia de l'époque.
Absolument.
Il vous parlait des débats qui parcouraient...
Quand parfois ça devenait de trop violent, oui. Sur ça, non. Je crois que il avait avec moi une forme de détente. Il avait avec moi des instants
d'innocence.
Oui. Et il avait en face de lui une toute jeune personne qui voulait savoir et qui ne lui demandait rien d'autre que d'être lui-même.
Le Pygmalion a été plus fort que le séducteur.
Pour moi, oui. Pour moi, oui. Mais je l'aimais infiniment, infiniment. Je lui dois des instants de richesse inégalable, de générosité fantastique. Mais tous ces gens, Simone de Beauvoir voulait me prendre sous son aile. Et moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je n'ai jamais aimé les chapelles. Je n'appartiens à personne. J'appartiens à qui je veux quand je veux. Ça, c'est clair. Je ne voulais pas appartenir à un petit cercle de gens.
Le fait d'avoir été l'ami de Merleau-Ponty avant de connaître Sartre vous a peut-être épargné le fait de devenir une sectatrice.
Probablement. probablement. Et puis je n'aimais pas les réunions un peu mondaines comme ça, un peu famille. J'aime bien les voir partout. Et quand je suis quelque part, j'aime bien aller voir ailleurs. Je les aimais. Je les admirais, je les aimais. J'avais une confiance et une reconnaissance pour eux profonde.
Vous voyez tous les soirs comme
oui,
comme...
oui, on se voyait. Et alors, bonjour Gréco. Hein, mais j'aimais beaucoup quand Sartre m'invitait à déjeuner parce que je m'amusais beaucoup. Sartre était un homme gay. Sartre était un homme qui adorait vivre, qui adorait la compagnie des femmes, des filles, qui était un homme infiniment courtois et drôle, extrêmement farceur. Donc j'étais bien. J'étais bien et je ne me sentais pas en état de terrible infériorité. Bon, je me sentais en état d'infériorité, bien sûr, mais j'avais pas honte. Il était très cancanier. Il adorait raconter des petites histoires. Il adorait ça. Hein. Et puis, surtout, il posait des questions. Et alors, vous faites quoi? Et ça, qu'est-ce que vous faites? Et puis, il y avait aussi les grandes conversations avec les textes qu'il avait écrits pour moi, qui m'ont été volés. En tout cas, jamais rendus. Il y a eu presque 5 chansons, dont une que vient de retrouver un monsieur charmant qui est en train de faire une grosse biographie sur ma vieille vie. Longue. Trop longue, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, écoutez, tant pis pour vous, parce que j'aurais mieux fait de mourir plus tôt, vous auriez eu moins de travail. Cela dit, il fait ça d'une manière très... Et alors c'est vraiment, vraiment, pour... Mais ça se voit vraiment que c'était pour moi. Parce que c'était exactement la fille que j'étais et qui disait finalement quelle chance d'être orpheline, enfin. Terrible chanson, terrible. J'ai le texte, il me l'a donné, celui-là je l'ai.
La vie quotidienne à Saint-Germain en 1946, c'est quoi?
C'est le tabou. Toutes les soirées étaient des soirées. Il y avait toujours quelque chose qui se passait tout le temps. À cette époque-là, je trouve que les hommes étaient plus séduisants qu'aujourd'hui.
Peut-être vous ne voyiez pas les autres.
Peut-être.
Mais ça fait oublier.
Peut-être. Mais je garde d'eux un souvenir ébloui, vraiment, vraiment. Et puis, il y avait une liberté qui n'existe pas aujourd'hui. Ils ont quand même remis une cravate, quoi. Il n'y a pas de doute. Ils sont en 3 pièces cravate, quoi. C'est un peu gênant. Tout à coup, on voyait arriver une beauté, toute mince, avec des yeux immenses, des cheveux roux, qui s'appelait Simone Signoret. On se disait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une apparition. Il y avait tout le temps des choses comme ça. Et puis, il y avait toute cette arrière-garde du surréalisme qui était là. Il y avait quand même les Duhamel, les René Clair, il y avait tous ces gens qui étaient là. C'est une disparition qui m'ont le plus touché. C'est un manque immense. Comme Boris Vian. Ce sont des gens... qui manque tout le temps, tout le temps.
Vous le connaissiez avant d'avoir...
Je connaissais son rire.
Si tu t'imagines.
Je connaissais son rire parce que je l'entendais souvent rire au Montana. Le Montana, à ce moment-là, était un repère un peu différent du Flore. C'était plus petit. Et là, on voyait arriver Simone de Beauvoir autour des États-Unis avec un petit manteau en rat d'Amérique. Et comme on était vilaine, on faisait le bruit du rat quand elle entrait. Mais c'était comme des enfantillages.
C'était comment le bruit du rat?
Elle se retournait, elle était fumasse. Elle n'était pas contente du tout. Elle était sévère en plus. Elle était très sévère. Il y avait beaucoup de personnages dans Saint-Germain. Il y avait un petit neveu de l'amiral Obuano qui était un personnage qui avait un poumon déficient et qui me disait « Tu dois m'accompagner chez le médecin, je dois me faire insuffler. » Ça ne me plaisait pas du tout, mais j'y allais. J'y allais. Ce sont des histoires de femmes. Ça. Les femmes résistent mal à la douleur des hommes. Il y avait des gens comme ça, il y avait des personnages très touchants. Il y avait des filles. Il y avait beaucoup de filles qui rêvaient de je ne sais quoi. Elles dansaient, moi je ne dansais pas. Mais elles dansaient. Elles cherchaient peut-être peut-être quelqu'un d'autre. Et je n'ai jamais vu de réussite. Les ficelles restaient toujours seules. Ni avec une autre fille, ni avec un garçon, elles restaient toutes seules. Il y avait beaucoup de personnages seuls. Dont moi. Mais moi, j'étais très dissipée. Je n'étais pas morale du tout. Enfin, pas morale dans le sens catholique du mot ou social du mot. J'ai une moralité très particulière. J'avais une moralité, j'ai toujours d'ailleurs. On ne me donnait pas à manger, donc je le prenais. Et je ne prenais pas quatre pommes, je prenais une pomme. Et je considérais furieuse qu'on aurait dû me l'offrir. Et je continue de penser qu'on aurait dû.
Vous avez aussi des amitiés avec des femmes.
Il y avait des amitiés avec des femmes, oui.
C'est une chose importante dans votre caractère. Vous n'êtes pas le genre de femme qui fait son chemin en dédaignant l'amitié ou l'intérêt
les
pour les autres.
J'adore.
Et évidemment, en pendant d'Anne-Marie Casalis, il y a évidemment Françoise Sagan.
J'ai beaucoup d'amour pour Françoise.
Comment vous l'avez vue arriver dans ce monde?
Elle est plus jeune que moi. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Donc, je l'ai vu arriver du haut de mes 6 ou 7 ans d'aînesse.
Vous étiez une grande.
Ouais. Et puis, elle était une petite fille, vraiment. Elle était comme une petite fille. Elle est restée très très longtemps comme une petite fille. Elle était extrêmement farceuse, extrêmement drôle, gaie, vivante. Non, c'est quelqu'un de très particulier, Françoise. C'est quelqu'un qui a un sens de l'amitié comme personne au monde.
Vous voyez le succès tomber sur les gens que vous aimiez comme ça.
Ah oui, avec une jouissance totale. Totale. Plus ils sont heureux, plus je suis heureuse.
Vous ne vous disiez pas que ça allait les éloigner de vous?
Non.
Au contraire?
Oui. Non, mais de toute façon, ça ne change rien, quoi. Même pas au contraire, ça ne peut pas changer quoi que ce soit. C'est impossible. Si les gens sont de bonne qualité, c'est impossible. C'est impossible. Françoise serait reine du monde, qu'elle serait la même. D'ailleurs, elle a été reine du monde.
Et Queneau, alors?
Queneau, c'était un rire énorme. Beau. Il était beau. Il était beau, il était lumineux. Il était lumineux, il était tendre. Et il a eu avec moi des rapports d'une immense tendresse. Il me trouvait courageuse. Il m'a écrit j'ai un petit peu honte de dire ça, mais il m'a écrit un jour après la complainte. Il m'a écrit un petit mot en me disant « À la beauté, vous alliez le courage » ou une chose comme ça. Et j'étais très fière. Je suis toujours très fière.
Vous aimez le mot de courage?
Oui.
Presque plus que celui de beauté?
Oh ben oui. Parce que ça, je suis sûre. Courage, je suis sûre. Certaine, je le sais. Je sais, mais même jusqu'à la démence, enfin. Vraiment grave, quoi. Téméraire.
Et quand Queneau et Sartre étaient à la même table, comment ça se passait?
Bien. Ce sont des gens de bonne compagnie, ce sont des gens intelligents et gais. Mais Queneau était moins... Il papotait. Enfin, moi, je ne l'entendais jamais papoter. Sartre adorait papoter. C'était très gai. Il racontait plein de petites histoires. Queneau, non. Mais Queneau était un grand timide.
C'était un poète, surtout.
Oui, bien sûr. Mais Sartre aussi, à sa façon.
Plus serein, romancier. Donc on imagine que son côté...
L'autre était lyrique, oui. L'autre était plus... Queneau était lyrique.
Est-ce que vous aviez l'impression, des fois, avec Sartre, qu'il posait des questions parce qu'en fait, il se renseignait
pour
un personnage qu'il aurait pu mettre dans une de ses pièces?
Ah, mais certainement. Certainement, il avait une curiosité tout à fait justifiée. Certainement, il nous regardait vivre, pas comme des animaux de laboratoire, mais il nous regardait vivre quand même, il se demandait comment il se faisait que des jeunes gens et des jeunes femmes vivent comme ça, pourquoi?
Alors vous adhérez aux jeunesses communistes,
oui.
Donc juste après la libération,
oui.
À l'époque le Parti communiste, c'est le parti des 100 000 fusillés,
et oui.
Mais en fait vous claquez la porte, vous montrez Gréco une fois de plus, vous claquez la porte assez vite.
Ah oui, on ne fait pas payer une carte d'adhérent à quelqu'un qui a faim. Ça ne se fait pas.
Donc, par la suite, vous avez assisté au grand débat d'idées.
Oui. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre.
Il y a eu deux grands débats, en fait, auxquels vous avez assisté. Il y a celui sur le goulag, et puis il y a celui de la guerre d'Algérie.
La guerre d'Algérie, pour moi, était une grande douleur et un grand désappointement. Cela dit, je ne comprends toujours pas. Parce que je ne comprends pas grand-chose. Il me faut beaucoup de temps pour arriver à accepter. Et la guerre d'Algérie, je n'ai toujours pas accepté. Et l'attitude du général de Gaulle est une attitude quand même qui pose énormément de questions. De Gaulle étant quelqu'un que je respecte infiniment et pour lequel quand même nous avons beaucoup, beaucoup risqué et beaucoup donné. Enfin, pour ses idées en tout cas. Moi j'ai vu des copains à moi pleurer en me disant « Je ne veux pas partir, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas ?» Mais c'est exactement, c'est tout à fait ça. C'est Monsieur le Président, c'est bien ça. Il a eu raison, Boris, ce jour-là, il a écrit une chose magnifique. Et ces garçons-là pensaient comme ça. Mais pourquoi est-ce que je vais tuer ces gens-là? Et pourquoi est-ce que je vais me faire tuer? Au nom de quoi? Je n'avais autour de moi que des gens qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie.
À part Camus.
À part Camus, ça aussi, c'est un grand point d'interrogation. Camus, pour lequel j'avais une admiration béate. C'est une guerre absurde, c'est une guerre immonde. Enfin, toutes les guerres sont immondes, mais celle-là est spécialement humiliante quand même.
L'Indochine, c'était pas mal non plus.
C'était très bien aussi, c'était très, très réussi. C'était très réussi, en tout cas ça a été très réussi pour les Indochinois, et c'est déjà ça. Mais la liberté... de l'Indochine aujourd'hui, je ne suis pas allée en Indochine, je ne suis pas retournée. Mais elle a été très, très cruellement gagnée, très chèrement gagnée, et il y a une odeur de sang qui demeure. Donc tout ça n'est pas très, très réjouissant.
Vous êtes quand même, tout votre mouvement...
Ma mère était en Indochine.
Oui.
Elle a fait la guerre en Indochine. Encore une chose que je ne pouvais pas comprendre.
Vous lui en parliez ?
Non.
Elle savait que vous étiez anticolonialiste ?
Tout à fait. Mais c'est... Toutes sortes de raisons font que je n'étais pas acceptable. Et que je ne le suis toujours pas, je pense. Enfin, j'espère.
Donc, dans les grands débats d'idées, des débats qui débouchaient sur des conduites, des choses pratiques,
oui.
dans la vie, il y a eu donc la question du goulag et puis un petit peu plus tard, la question de la guerre d'Algérie.
La question du goulag, ça a été dramatique et ça a été définitif.
Vous êtes déjà dans ce milieu quand David Rousset oui. fait paraître ses textes. Vous, à partir de quand vous vous sentez ébranlé?
Je crois que ça a commencé très tôt. Ça a commencé quand on m'a fait aller, sans me demander mon avis, dans une cellule d'adultes. Il y avait Marguerite Duras dans cette cellule, heureusement, que j'adorais. Et je sortais toujours dans un état de colère absolument, mais violette. Il n'y avait pas de vie, c'était dogmatique. Et c'était quasiment des ordres. On doit aller dans ce chemin-là et ne pas en sortir.
Vous étiez dans cette fameuse cellule où était Duras, dont elle-même a été victime ensuite,
mais
puisqu'il y a eu un petit complot.
Or, cette pauvre chienne, voyez cette espèce de jeune fille en furie, chaque fois qu'elle me prenait par la main, elle me disait « Viens, on va marcher ». Elle habitait rue Saint-Benoît. Donc, elle me faisait faire la rue Saint-Benoît, du haut en bas, du bas en haut, ça plusieurs fois. Je disais, on va la faire marcher, ça va la calmer, elle devait se dire ça. Je sortais en furie. Elle essayait de m'expliquer les choses d'une manière différente. Elle parlait. Elle était lumineuse. Elle était une lumineuse intelligence. Et la toute jeune fille que j'étais était fascinée par elle. Donc je suis restée quelque temps à cause de Marguerite.
La religion de Staline, ça vous ennuyait ?
Beaucoup, 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 beaucoup. J'étais extrêmement inquiète de ça. C'est une chose que je n'ai pas supportée du tout, jamais. Et puis, je n'aime pas un homme qui fait la guerre et qui aime les petits-enfants. Ça me semblait contradictoire. L'image qu'on me montrait de cet homme et les actions qu'il menait me semblaient contradictoires.
Là. Simone de Beauvoir dit que c'est le procès Kravchenko, qu'il commence vraiment à l'ébranler complètement, même si elle continue de se taire.
Oui, moi, je me suis tue. Très, très, très bizarrement, on continue de se taire. Et j'ai continué longtemps de me taire. Et je me suis presque toujours tue. Et je me suis forcée à parler. Mais on se dit qu'on est responsable de quelque chose. On se dit, c'est comme la religion.
Enfin, vous avez
ça, ça ne vous quitte jamais, cette affaire-là. Et quand on a été communiste, il en reste toujours quelque chose. C'est très curieux. C'est une chose très bizarre, le communisme. C'est pernicieux. Enfin, ça l'a été, en tout cas. Maintenant, c'est une toute autre affaire, c'est un tout autre problème. Mais le communisme soviétique est une défaite d'une cruauté, d'une laideur, c'est indicible. Enfin, c'est une des choses les plus cruelles qui ait pu arriver à des gens qui étaient de bonne volonté. Et qui croyait que, comme disait le Christ, aimez-vous les uns les autres existe. Je suis plus rassurée par les anarchistes que j'ai été rassurée par les communistes, il faut bien le dire. Les anarchistes, un homme comme Brassens, par exemple, Ferré n'était pas un anarchiste, je crois. Il avait un sens de la liberté très, très profond. Mais je ne pense pas qu'il ait pu être un anarchiste militant. Brassens, oui. Oui, totalement.
Boris Vian.
Bobo, Bobo chéri, Bobo d'une beauté de Gréco, comme ça, avec ce long visage verdâtre, ses yeux magnifiques, ce calme, ce silence, et puis ce fluide glacial, quoi. Il était très, très étrange, Boris. Boris m'a réappris à parler. Je devrais peut-être leur vouloir, d'ailleurs, mais je leur remercie. Boris avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, du tout. Et au bar vert, on allait souvent au bar vert. J'allais, moi j'écoutais, j'ai passé mon temps à écouter dans ma jeunesse. J'écoutais. Et Boris voyait cette chose bizarre comme ça, qui disait rien dans un coin. Hein. Un jour, il est venu s'asseoir, il m'a dit « Pourquoi tu ne viens jamais me voir ?» Je dis « Où ?»« Chez moi, j'habite à Montmartre. » Je dis « Où tu habites ?» Il m'a donné son adresse. Et de temps en temps, comme ça, en fin de journée, je montais, à pied bien sûr, c'est une grande promenade. Je montais de Mont-Saint-Germain chéri jusque chez lui à Montmartre. Et puis on s'asseyait tous les deux dans le divan de son salon. Puis il mettait son grand bras autour de moi, comme ça. Il s'amusait un petit peu avec mes cheveux. Et il parlait. Et puis la nuit tombait. Et comme il faisait nuit, j'arrivais parfois à répondre. Il me posait des questions, il me racontait des histoires. Puis petit à petit, comme on peut apprivoiser un animal sauvage, comme ça, à force de calme, de douceur, de tendresse, d'intérêt, hein, alors la bête flattée finit par répondre. Et j'ai recommencé un petit peu à parler à cause de lui. Et j'étais dépossédée quand il est mort, bien sûr. Et je le suis toujours. J'ai très envie de lui téléphoner souvent, et puis je ne peux pas. Et ça, c'est certainement ce qu'on appelle la mort. Alors, chez lui, je suis allée un soir où il y avait plein de monde. Il recevait tout le temps plein de monde. Et il y avait Bibi, sa femme, Bibi Vian, qui était la maîtresse de Sartre. Et je crois que ça lui plaisait pas tellement. Je pense qu'il en a souffert quand même pas mal. Boris était un tendre. Boris avait le cœur trop gros physiquement. il en est mort d'ailleurs, et moralement, je crois qu'il était d'une extrême fragilité. En même temps que cette espèce de hauteur qu'il avait un peu glacée. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup.
Vous relisez ses livres, ses poèmes?
Non, j'ai relu L'écume des jours parce que c'est pas possible de ne pas le relire. Parce que c'est peut-être le plus beau roman d'amour de notre siècle. Peut-être.
Vous sentiez que c'était très proche de Queneau, vous les sentiez
oui.
En filiation?
Ah oui, total. Oui, ils étaient tout le temps ensemble. Ils travaillaient ensemble, ils étaient tout le temps ensemble. Ils s'aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils avaient une même vision dérisoire des choses.
C'est vraiment intéressant parce que c'est une amitié transgénérationnelle.
Oui, ils étaient très jeunes que nous. C'était un gros enfant.
Vous le trouviez plus jeune que Sartre?
Beaucoup plus. Sartre avait un grand sens de son état d'enseignant. Et ça se sentait tout à fait. Il nous regardait comme un professeur regarde ses élèves, avec beaucoup de tendresse, avec parfois beaucoup d'amusement. Mais il restait quand même l'homme qui apprend. Queneau était l'homme qui rêve. Queneau était de la race des anges. Moi, j'ai l'impression que j'ai fréquenté des génies. Énormément de génies, et que de temps en temps, je les trouvais extraordinairement sots. Enfin, les génies que moi j'ai rencontrés étaient déjà enfantins.
Vous retrouverez demain la suite de cet hommage à la chanteuse Juliette Gréco, enregistré en 2001 au micro d'Elana Zera. À voix nue, réalisation Manouchak Fachaï, Anne-Pascale Desvignes, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.